VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 4 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, l'armée annule son accord de transition avec les contestataires et appelle à des élections.
Le Rwanda empêche des pèlerins de se rendre en Ouganda, selon Kampala, un nouveau signe de la dégradation des relations entre les deux pays.
Le président américain Donald Trump poursuit sa visite d'État en Grande-Bretagne après avoir reçu hier un accueil en grande pompe à Buckingham Palace.
Le Mexique a mis en garde hier contre, je cite, « l'effet contre-productif » des taxes douanières annoncées par le président Trump contre ce pays voisin.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les militaires qui gouvernent le Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir ont annoncé ce mardi qu'ils annulaient les mesures sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord avec les contestataires et ont appelé à des élections dans un délai de 9 mois. Cette annonce est intervenue au lendemain de la dispersion lundi par les forces de sécurité du sit-in des manifestants qui campaient devant le quartier général de l'armée à Khartoum pour réclamer la transmission du pouvoir aux civils. L'opération a fait plus de 30 morts et des centaines de blessés, selon des médecins proches de la contestation. Le Conseil militaire de transition a pour sa part démenti toute dispersion par la force du sit-in et promis une enquête sur ces événements. La dispersion du rassemblement a suscité de nombreuses condamnations internationales, notamment des États-Unis et de l'ONU, Jean-Roger Bion.
C'était une attaque brutale et coordonnée menée par la milice de la force de soutien rapide, a tweeté Tibor Naadj, le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique. Nous soutenons les manifestants en Pacifique, au Soudan. La voie vers le partenariat avec les États-Unis se fera par l'intermédiaire d'un gouvernement civil, a poursuivi M. Naadj. Londres a affirmé que le Conseil militaire portait l'entière responsabilité de cette action scandaleuse. L'Union africaine et la France ont de leur côté condamné les violences. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit alarmé par les informations signalant que les forces de sécurité ont ouvert le feu à l'intérieur d'un hôpital. Michel Bachelet, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a aussi déploré des tirs à balles réelles sur les manifestants. L'Égypte, qui a reçu récemment le chef du Conseil militaire, Abdel Fattah al-Burhan, a appelé au calme et à la retenue et au retour à la table des négociations.
Et a signalé que le Royaume-Uni et l'Allemagne ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette réunion à huis clos devrait se tenir aujourd'hui, selon des diplomates.
Une série d'attentats contre la capitale Niamey et Diffa, la grande ville du sud-est, ont été déjoués ce week-end au Niger, a annoncé lundi le gouvernement. Selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense, lu à la radio d'État, samedi après-midi, je cite, « un groupe de 5 personnes, dont 2 terroristes avérés, a été arrêté au quartier aéroport qui abrite l'aéroport international de Niamey. Ces terroristes avaient l'intention de perpétrer des attentats dans la ville de Niamey ou ses environs. » Fin de citation. Et puis, toujours selon le ministère de la Défense, 2 autres attaques ont été déjouées à Diffa dimanche. Les autorités locales ont incriminé le groupe islamiste nigérien Boko Haram.
Deux jeunes blogueurs mauritaniens, Abderrahman Ould Ouedadi et Cheikh Ould Djidou, détenus depuis plus de 2 mois pour dénonciation calomnieuse envers le président Mohamed Ould Abdelaziz, ont été remis lundi en liberté provisoire, a appris l'AFP de l'un de leurs avocats. Cette mesure intervient à la veille de la fête du Ramadan, attendue mardi ou mercredi en Mauritanie, et le jour de la diffusion d'un appel d'organisation de défense des droits de l'homme aux candidats à l'élection présidentielle du 22 juin.
Tension entre Kigali et Kampala, un responsable ougandais a accusé des soldats rwandais d'avoir empêché environ 200 pèlerins rwandais de traverser la frontière pour participer à un événement religieux chrétien en Ouganda. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les Rwandais souhaitaient participer aux festivités du jour des martyrs en Ouganda quand ils ont été stoppés et ont dû rebrousser chemin. L'événement accueille 1 million de pèlerins du monde entier selon ses organisateurs. Selon Janina Besigye, une responsable du gouvernement ougandais à Katuna, une ville frontalière avec le Rwanda, cela montre combien les relations entre l'Ouganda et le Rwanda sont devenues mauvaises. On contrarie maintenant le droit des gens à prier, a-t-elle ajouté. Le jour des martyrs commémore l'exécution l'exécution de 45 personnes qui se sont converties au christianisme dans les années 1880. Leur mort avait été ordonnée par le roi du Buganda, l'une des régions de l'actuel Ouganda. Les tensions entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni, autrefois de proches alliés, se sont aggravées ces derniers mois, les deux pays s'accusant mutuellement d'ingérence politique et d'espionnage.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump poursuit sa visite d'État en Grande-Bretagne, dont le premier jour a été marqué hier par un accueil en grande pompe à Buckingham Palace et surtout par un banquet d'État offert par la reine Elisabeth II. Monsieur Trump doit s'entretenir aujourd'hui avec la première ministre Theresa May sur le départ après son échec sur le Brexit. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Dans son toast, le président Trump a déclaré que libérer des millions de personnes de la tyrannie pendant la Deuxième Guerre mondiale a scellé à jamais l'amitié entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Pour sa part, la reine Elisabeth a dit, je cite, « Ce soir, nous célébrons une alliance qui a aidé à assurer la sécurité et la prospérité des deux peuples pendant des décennies et qui continueront pendant de nombreuses années encore. » La visite est marquée aussi par la controverse, sa dispute par tweet interposée avec le maire de Londres, Sadiq Khan, qui estime que son pays a tort de dérouler le tapis rouge à Donald Trump. Le soutien public du président américain à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, pour remplacer Mme May, les propos qu'il dément avoir tenus sur Meghan, l'épouse américaine du prince Harry, le boycott du banquet d'État par Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste. Il y a aussi les manifestations attendues aujourd'hui contre lui. Pendant sa visite en Europe, M. Trump doit aussi participer en Grande-Bretagne ainsi qu'en France aux cérémonies marquant le 75e anniversaire du débarquement et effectuer une escale en Irlande.
Deux avocats ont demandé hier à la Cour pénale internationale de poursuivre l'Union européenne et ses États membres pour crimes contre l'humanité en raison de la mort en Méditerranée de milliers de migrants cherchant à fuir la Libye. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Juan Branco, avocat franco-espagnol, et Omer Schatz, juriste israélien, tous les deux basés à Paris, ont indiqué avoir transmis un dossier de 245 pages à Fatou Bensouda, la procureure de la CPI. Ils disent avoir fourni assez de preuves des crimes contre l'humanité commis depuis 2014 par les politiques migratoires de l'Union européenne. Plus de 12 000 personnes sont mortes en Méditerranée en tentant de rallier l'Europe depuis la Libye. La CPI enquête déjà sur les accusations de crimes commis à l'encontre des migrants en Libye afin de déterminer s'ils relèvent de sa juridiction. Il n'est pas établi comment Mme Bensouda va traiter cette plainte qui cible l'Union européenne et spécifiquement la France, l'Allemagne et l'Italie, tous membres de la CPI. Cette accusation n'a pas de sens et ne repose sur aucun fondement juridique, a réagi le ministère français des Affaires étrangères.
Le Mexique a mis en garde hier contre ce qu'il a appelé l'effet contre-productif des taxes douanières annoncées par le président américain Donald Trump, qui accuse son voisin du Sud de laxisme face aux flux d'immigrés. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Les deux pays assurent résoudre cette crise avant l'entrée en vigueur des taxes le 10 juin grâce à des discussions en cours à Washington. Les taxes douanières pourraient provoquer une instabilité financière et économique, ce qui signifie que le Mexique pourrait voir réduite sa capacité à contrôler les flux migratoires, a déclaré le chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo Ebrard, qui participe à ces discussions. Elles ont un fort potentiel de succès, a pour sa part déclaré Kevin Hassett, conseiller économique du président américain. Les taxes douanières contre le Mexique ont une importance cruciale dans l'économie mexicaine et moins cruciale pour l'économie américaine, a-t-il renchéri. Marcelo Ebrard, qui doit rencontrer demain son homologue américain Mike Pompeo, souhaite aussi discuter avec le ministre par intérim de la Sécurité intérieure, Kevin McAleenan, chargé de la lutte contre l'immigration clandestine.
Le Newseum, musée de l'information, ici à Washington, a rendu hommage hier aux journalistes tués en 2018 dans l'exercice de leur métier. Parmi eux, notamment, Jamal Khashoggi, journaliste critique du régime saoudien, brutalement assassiné au consulat de son pays à Istanbul, et Shah Maray, chef photographe de l'AFP à Kaboul, qui a perdu la vie avec 9 autres journalistes lors d'un double attentat à la bombe le 30 avril 2018. Les noms de 22 journalistes, parmi les 80 morts l'an dernier, selon Reporters sans frontières, ont été ajoutés à un mémorial dédié à l'intérieur de l'imposant bâtiment situé à proximité du Capitole.
À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, qui est célébrée aujourd'hui par les musulmans ici aux États-Unis, le président Donald Trump et son épouse Melania ont adressé leurs vœux de fin de Ramadan à tous les musulmans du pays et du reste du monde, au moment où ils renouvellent leur engagement d'aider les moins fortunés et renforcent leur foi en Dieu. Le couple présidentiel américain a exprimé l'espoir que cette fête apporte joie et paix à tous ceux qui célèbrent la fête, et prie pour que les communautés du monde entier soient touchées par les abondantes bénédictions divines d'amour, de pardon et de bonne volonté.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Depuis le 1er juin, les autorités ghanéennes ont interdit l'exportation du poivron, de l'aubergine, de l'éponge végétale et de tous les légumes à feuilles sur le marché international pour une durée indéterminée. Le Ghana explique sa décision par le souci de se conformer aux nouvelles directives de l'Union européenne en matière de gestion des organismes nuisibles sur les légumes. La Banque centrale du Kenya a dévoilé hier de nouveaux billets de banque pour lutter contre la fraude. Ces billets sont ornés de symboles représentatifs du pays comme les éléphants et les léopards et n'ont plus d'anciens présidents. Ils ont des caractéristiques qui permettront aux malvoyants de les utiliser. Les anciens billets de 1000 shillings seront retirés avant le 1er octobre. Pour terminer, les prêts étrangers que le Zimbabwe a contractés en utilisant des minéraux comme garantie pourraient compliquer ses négociations avec les créanciers étrangers en vue de restructurer sa dette de 8,8 milliards de dollars, a annoncé le FMI. Ces arriérés de 2,6 milliards de dollars vis-à-vis de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne d'investissement l'empêchent d'accéder à de nouveaux fonds de prêteurs multilatéraux.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Commençons par l'athlétisme. La justice suisse suspend les règles de l'IAAF sur les taux de testostérone.
Oui, la Cour suprême suisse, saisie par Caster Semenya, a annoncé qu'elle suspendait temporairement les règles de la Fédération internationale d'athlétisme qui oblige la Sud-Africaine ainsi que plusieurs athlètes hyperandrogènes à prendre des médicaments pour faire baisser leur taux de testostérone. Cette suspension provisoire du règlement de l'I2AF permet à Caster Semenya de participer à des compétitions sans aucune restriction, a réagi son équipe de communication. Le prochain 800 mètres de très haut niveau est prévu à Montreuil le 11 juin où Caster Semenya est engagé sur 2000 mètres pour l'instant avec la Burundaise Francine Niasomba, une autre athlète hyperandrogène.
La Fédération marocaine de football veut faire rejouer la finale retour de la Ligue des Champions.
Oui, évoquant les événements de vendredi dernier qui n'ont pas permis à la rencontre Espérance de Tunis Wydad Athletic Club de Casablanca d'aller jusqu'au bout, la Fédération royale marocaine de football a fait savoir qu'elle va introduire une demande dans ce sens lors de la réunion du comité exécutif d'urgence de la CAF prévue aujourd'hui. Une rencontre au cours de laquelle le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Legdia, demandera que le match soit rejoué sur un terrain neutre, d'après le site Araïdia. Mais vu que le trophée a été déjà donné à l'Espérance de Tunis, pas sûr que la démarche de l'instance marocaine aboutisse. Au contraire, beaucoup s'attendent plutôt à voir la CAF sanctionner le WAC.
Rodriguez devra quitter le Bayern.
Et oui, le Bayern Munich a décidé de ne pas lever l'option d'achat du milieu de terrain colombien fixé par le Real Madrid, selon le magazine Kicker. James Rodriguez, 27 ans, a rejoint le Bayern en prêt en 2017. Le club allemand a la possibilité d'acter son transfert en échange de 42 millions d'euros dès que l'accord de prêt de 2 ans expirera le 30 juin. Cependant, selon Kicker, le champion en titre de Bundesliga juge le montant trop élevé. James a inscrit 14 buts en 43 matchs de Bundesliga pour le Bayern, mais il a connu des rapports difficiles avec son entraîneur Niko Kovac cette saison.
Le Qatar gagne l'organisation des Coupes du Monde des clubs 2019 et 2020.
Oui, le Qatar, pays hôte du Mondial 2022, va organiser la Coupe du Monde des clubs en 2019 et en 2020, avant que la compétition ne passe à 24 équipes, selon l'annonce faite par la FIFA. Le Qatar succède ainsi aux Émirats Arabes Unis qui ont organisé les deux dernières éditions de la compétition, remportées à chaque fois par le Real Madrid. La FIFA a décidé en mars de lancer à partir de 2021 une Coupe du Monde des clubs élargie à 24 équipes qui remplace la Coupe des Confédérations. Une édition pilote se disputera du 17 juin au 14 juillet 2021 dans un pays encore à déterminer.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Soudan, selon un comité de médecins, la dispersion hier du sit-in des manifestants devant le quartier général de l'armée à Khartoum a fait au moins 30 morts. Ces manifestants insistent pour que le conseil militaire qui a pris le pouvoir après le renversement du président Omar al-Béchir transfère le pouvoir aux civils. Qu'est-ce qui risque de se passer dans ce pays? Idriss Fall a joint hier à Paris Roland Marchal, directeur de recherche au CNRS à Paris et spécialiste du Soudan.
Il va falloir mesurer plusieurs paramètres. Le premier, c'est savoir si on en reste là ou si les anciens manifestants se regroupent pendant les fêtes de l'Eid ou juste après pour essayer de récupérer cet espace. Il faudra également voir dans quelle mesure cette répression va se poursuivre au-delà de cet endroit symbolique. Et dans ce cas-là, quelle sera l'attitude et des manifestants mais aussi de l'armée, puisque les forces qui interviennent à l'heure actuelle sont les forces du général Emeti, le numéro 2 de la junte militaire. C'est donc une milice paramilitaire, beaucoup plus que l'armée elle-même, qui mène la répression. Donc il faut aussi mesurer dans quelle mesure l'armée, notamment ses échelons inférieurs et intermédiaires, sont prêts à accepter disons, une répression dans le sang du mouvement social.
Pour le moment, l'armée n'est pas intervenue comme elle avait fait pour protéger les manifestants.
Elle est restée neutre et la question est de savoir si cette neutralité va perdurer ou au contraire, elle traduit le fait que l'armée joue Emeti, ce qui voudrait dire qu'à terme, Emeti serait sans doute potentiellement un dirigeant possible pour le Soudan, puisque le général Borin, qui guide la junte militaire, a déjà fait savoir que lui, il n'était pas très intéressé à rester dans ce poste. Alors évidemment, on peut jouer les timides, mais si lui partait, donc Emeti resterait, ce qui ne serait pas non plus le meilleur présage pour une transition souple et puis surtout pour un régime qui changerait de la période d'Omar al-Béchir.
Le mouvement dit de contestation aussi est très divisé. Apparemment, ils ne parlent pas d'une seule et même voix.
Oui, c'est une des différences qui explique la passivité de l'armée. Des négociations ont été entreprises, alors que chacun y est allé de ses tactiques pour diviser l'autre camp. Hein. Mais très clairement, ce qui est apparu, c'est que le mouvement social, vous aviez plusieurs composantes politiques. Vous avez des partis, notamment le parti Ouma, plutôt acquis à l'idée d'un compromis plus qu'historique avec les militaires. On a baissé considérablement les revendications et travailler avec les militaires au mieux du possible. Et puis vous avez tous les gens, les militants et les groupes qui ont réussi à se créer dans le cadre de ce mouvement social qui a été quand même d'une ampleur inégalée et qui eux sont beaucoup plus radicaux politiquement, veulent réellement un démantèlement de l'État, enfin du régime d'Omar al-Béchir et évidemment un retour des militaires dans leurs casernes sans aucun rôle politique significatif. Donc ces différences sont apparues aux yeux de tout le monde. Je pense que ça a divisé la population. C'est sans doute, on va réévaluer plus clairement ça dans les semaines qui viennent.
C'était, joint hier à Paris, Roland Marchal, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Soudan.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, l'un des leaders de la coalition Lamuka et président du MLC, a annoncé pour le 23 juin son retour à Kinshasa. Eddy Sango a joint à Kinshasa même le secrétaire général adjoint du MLC, Fidel Babala.
Je vous confirme que M. Bemba rentre le dimanche 23 juin à 10h par l'aéroport de Ndjili.
Et qu'est-ce qui est au programme?
Nous sommes en train de confiner les programmes au niveau du MLC dans un premier temps et ensuite nous allons faire approprier ce momentum politique par la Mouka. Donc nous allons intéresser aussi nos amis de la Mouka.
Il dit sur son compte Twitter qu'il veut vite rentrer mais qu'il rentre pour combattre ensemble avec les autres pour l'unité du pays et faire progresser les pays. Qu'est-ce que cela veut dire?
Vous suivrez probablement le meeting qui va tenir à Kinshasa à son arrivée. ou le point de presse pour qu'il puisse expliciter ses pensées contenues dans les tweets.
Il rentre à Kinshasa le 23 juin, mais en même temps, M. Moïse Katumbi, qui est aussi l'un des leaders de la Mouka, qui dirige maintenant présentement la coalition, lui est annoncé dans la même ville pour le 20 juin. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait friction quelque part?
Non, pourquoi il y aurait friction? Nous partageons les mêmes idéaux, les mêmes objectifs. Je pense que ça ferait que ça bouillonne la marmite du pays. Donc, je ne pense pas que ce soit antinomique.
Parce que certains parlent de lutte pour le positionnement et autres, surtout que M. Moïse Katumbi avait annoncé le 20 mai, à son retour, qu'il prendrait bien M. Martin Fayulu et M. Jean-Pierre Bemba pour les amener auprès de M. Félix Tshisekedi, le président qui a été élu.
Je lui laisse la paternité de ses propos, je ne voudrais pas commenter ses propos.
Vous avez annoncé une conférence de presse pour un meeting, c'est cela?
Nous sommes en train de faire des réunions pour justement essayer de fixer chronologiquement les choses. Je ne sais pas si on commence par le meeting ou par le point de presse. Quand on aura fini les réunions préparatoires, on verra plus clair.
Et après, ça sera la tournée aussi à travers les pays?
Ça, je ne serai pas l'affirmer maintenant. Il faudra attendre que les choses soient beaucoup plus claires.
Est-ce qu'un rapprochement est possible, parce que Moïse Katumbi en a parlé, avec le gouvernement ou le président de la République, par exemple? Le gouvernement n'est pas encore mis en place.
Nous partageons certaines valeurs, notamment un même pays. La politique est l'art du possible, donc je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, on verra bien l'articulation des choses.
Fidèle Babala, secrétaire général adjoint du MLC à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les autorités camerounaises ont renforcé la protection de l'unique raffinerie du pays à l'arrêt depuis le week-end suite à une puissante explosion. Il n'y aura pas de pénurie de produits pétroliers, assure-t-elle, en rejetant tout rôle des séparatistes anglophones dans l'incident qui a endommagé le complexe pétrolier de Limbé. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gahima.
À Yaoundé, la capitale, plusieurs femmes attendent de se procurer du gaz butane. L'une d'elles, Christine Enanga, est inquiète.
Je suis venue acheter 4 bonbonnes de gaz, mais les agents disent qu'ils ne peuvent m'en vendre que 2 parce que d'autres personnes attendent aussi de s'en procurer. Je suis sûre qu'il y aura une grave pénurie au Cameroun.
De leur côté, les chauffeurs tentent eux aussi de faire des stocks de carburant, craignant une rupture dans les jours à venir. À l'origine de ces inquiétudes, l'explosion samedi nuit d'une cuve de stockage de la raffinerie de Limbé dans la région anglophone du Sud-Ouest. L'incendie qui s'en est suivi a ravagé une partie du complexe, interrompant la production de produits pétroliers. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Les ministres camerounais du commerce, Magloire Mbarga Atangana, assurent qu'il n'y a pas lieu de craindre une pénurie.
Je voudrais tout de suite rassurer les populations, rassurer les consommateurs sur l'approvisionnement en continu du marché, rassurer les consommateurs et les populations sur les prix. Le marché des produits pétroliers au Cameroun est régulièrement régulé. Et l'obéit de façon constante, qu'il s'agisse des importations ou de la production nationale, à une structure très précise des prix. Donc il y a une structure des prix et cette structure est valable, qu'il s'agisse de la production nationale ou des importations.
Les rebelles séparatistes ont revendiqué sur les réseaux sociaux la responsabilité de l'explosion. Selon eux, les régions anglophones ne bénéficient en rien de ce complexe industriel. Le porte-parole du gouvernement camerounais, René Emmanuel Sadi, a réfuté la thèse du sabotage, accréditant plutôt celle d'un accident.
Les premiers éléments d'information dont nous disposons à ce stade convergent vers l'hypothèse d'une cause accidentelle. J'insiste sur ce diagnostic qui procède d'une appréciation sérieuse de nos services compétents pour démentir sans embâge les revendications intempestives des sécessionnistes que l'on entend depuis quelques jours et qui s'apparentent davantage à de la mystification ou à une espèce de propagande de mauvais aloi. Il n'en demeure pas moins que, au-delà de cette première évaluation, le chef de l'État a prescrit une enquête des services de sécurité qui permettra de déterminer avec plus d'exactitude les causes et les circonstances de cette explosion.
La raffinerie de Limbé fournit 2,2 millions de tonnes de pétrole brut par an au Cameroun et à d'autres pays de la région comme le Togo, le Nigeria et le Ghana.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Je vous propose pour terminer d'aller à Wayne, dans l'État de Pennsylvanie, pour découvrir ces jeunes Africains qui font la fierté du continent dans le football. Originaires d'Afrique de l'Ouest pour la plupart, ils évoluent à l'Académie sportive de Philadelphia Union et leur contribution au succès de l'école est assez remarquable. Thierry Kaoré est allé à leur rencontre.
Ils sont un peu plus d'une dizaine à s'entraîner chaque matin sur cette pelouse. Parmi eux, Patrick Bowie, originaire de la Guinée. Il a rejoint l'académie en 2016 et semble être bien intégré.
C'est comme une famille ici, tu vois. Tout le monde est ensemble. Tu as besoin de quelque chose, les maîtres sont là pour toi, tout le monde. Non, ben, je crois qu'il n'y a pas ça dans notre école. Dans notre école, c'est juste, tu fais ce que tu veux, toi seul, tu vois. Mais ici, il y a des gens qui t'aident et tout.
Mais Patrick n'est pas le seul à apprécier l'établissement. Il y a Marco Blad de la Côte d'Ivoire, arrivé ici en 2015, et le plus ancien, Aboubakar Camara, également de la Guinée. Il connaît bien les entraîneurs puisqu'il est là depuis 2012.
Je pense que les entraîneurs sont excellents car ils vous aideront tout le temps. Ils vous donnent du temps avant et après l'entraînement et vous pouvez toujours leur parler quand vous en avez besoin. Vous pouvez le faire par vidéo à tout moment.
La plupart des pensionnaires immigrés sont d'origine africaine. Pour le directeur Tommy, cette académie joue un rôle important dans leur intégration socio-professionnelle.
En tant qu'immigré moi-même, je connais les défis de venir dans un autre pays. L'immigration peut être assez difficile. Ce que je peux dire, c'est que cette école offre une opportunité exceptionnelle, une opportunité qui change la vie.
Une opportunité donc pour ces joueurs africains dont la performance fait la fierté de l'État. Comme le souligne Richie Graham, fondateur de l'Académie.
Nous avons un certain nombre de garçons venant d'Afrique de l'Ouest qui sont venus à l'école ici et ce qu'ils apportent à la communauté est magique. Ces garçons venus d'autres régions du monde ont apporté avec eux une partie de ce monde et ont contribué à faire de ce lieu un endroit vraiment très spécial. Et nous prenons ce genre de culture très au sérieux parce que nous croyons que si vous voulez développer un joueur de classe mondiale, vous devez développer une personne de classe mondiale.
Au-delà des entraînements sur le terrain, l'académie dispose également d'un centre de formation permettant ainsi aux joueurs de suivre des cours dans plusieurs domaines. Écoutons Idrissa Koné, entraîneur à l'académie de Philadelphia Union.
Je pense que c'est une belle opportunité pour tous les Africains qui se trouvent à Pennsylvanie ou bien vers le sud de New Jersey ou un peu Maryland ou Delaware, d'aller au collège, avoir une bonne éducation, de ne pas payer, surtout pour les parents. Et puis ceux qui savent qu'ici, on paye cher l'école.
Les Africains ne sont pas les seuls. Plus de 40 nationalités, ils sont au total 86 étudiants à fréquenter cette académie et tous ont un seul rêve, devenir des joueurs professionnels.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.